Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, à quoi servent les sanctions internationales ? Latitude 32 degrés nord, longitude 53 degrés est. Voici les coordonnées du nouvel Eldorado, un pays de 80 millions d'habitants qui ne demande qu'à se transformer en consommateur après des années de privation. Ce pays, c'est l'Iran. Et depuis qu'il a signé un accord sur son programme nucléaire avec les grandes puissances, donc depuis qu'il est redevenu fréquentable, il fait l'objet de toutes les attentions et de toutes les espérances, économiquement parlant. Illustration dès demain à l'occasion de la visite à Paris du président Hassan Rouhani, puisque c'est là que devrait être officialisé l'achat par Téhéran de 114 Airbus. La perspective d'une levée des sanctions aiguise les appétits, pas seulement dans le domaine de l'aéronautique, et pas seulement à propos de l'Iran d'ailleurs. Sous embargo américain depuis plus d'un demi-siècle, Cuba s'apprête elle aussi à rentrer dans le rang. Idem pour la Russie, sanctionnée par les Occidentaux depuis 2014 suite à l'annexion de la Crimée. Les sanctions pourraient être levées l'été prochain, à en croire en tout cas Emmanuel Macron. Alors faut-il y voir une preuve de l'efficacité de ces mesures, censées être des alternatives à la guerre ? À quoi servent les sanctions internationales ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Catherine Durandin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Vous publiez dans quelques jours, je crois que ce sera tout début février, La guerre froide au PUF dans la collection Que sais-je. Pour discuter avec vous, François Hesbourg, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS. Vous présidez l'International Institute for Strategic Studies de Londres, l'IISS. Et vous avez publié fin 2015 chez Stock, Secrets Histoires, la naissance du monde moderne. Et puis notre troisième invité, c'est Pierre Conessa.
Bonsoir.
Bonsoir. Ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions stratégiques internationales. Votre tout dernier ouvrage vient de sortir chez Fayard, guide du petit jet. À l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants. Alors, si nous avons choisi de faire l'émission ce soir, c'est parce qu'il y avait une forme de conjonction dans l'actualité entre des décisions qui concernent des sanctions, ou plutôt des perspectives de levée de sanctions à l'égard de Cuba, de l'Iran et de la Russie. Est-ce que ce sont des pays qui, une fois ces sanctions levées, vont en sortir affaibli, François Hesbourg?
D'abord, pour la Russie, je serais plus prudent que ne l'a été Emmanuel Macron, qui n'a pas eu jusqu'à présent beaucoup d'expérience dans les relations internationales. Il va falloir qu'il apprenne. Et les accords de Minsk ne sont toujours pas vraiment respectés. Et le sujet reste, hélas, entièrement ouvert. L'Iran, lui, devrait sortir en assez bon état. Et il y a un état iranien, il y a une société iranienne. Et le pétrole est toujours là. Et c'est un pays qui devrait, en fait, redémarrer relativement fort parce que la levée des sanctions va produire un effet d'aubaine un peu surprenant. Le dégel des avoirs devrait porter sur quelques dizaines de milliards de dollars. Ça permettra, même avec des prix du pétrole très bas, de satisfaire une partie des demandes de la société civile. On le verra peut-être avec la commande des Airbus.
Et est-ce que Cuba va sortir en aussi bon état que l'Iran?
Non.
Parce que le blocus est beaucoup plus ancien.
Cuba, en dehors d'un tourisme qui est pour l'instant encore sous-développé, n'a pas vraiment davantage comparé au plan industriel, au plan agricole. Le sucre, ça ne vous conduit quand même pas très loin. Autrement dit, Cuba va partir avec un très très sérieux handicap.
Je vais vous poser la même question, Catherine Durandin et Pierre Conessa, mais peut-être de manière un petit peu différente. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'état du pays, de chacun de ces trois pays, est lié au fait qu'ils ont subi des sanctions économiques, Catherine Durandin? Est-ce que, par exemple, les difficultés que rencontre la Russie aujourd'hui, difficultés économiques importantes, elles sont notamment liées au fait que les Occidentaux ont pris des sanctions contre Moscou?
Je vous réponds à la Normande, oui, non. Non, parce que il y a eu déjà en 2008-2009 une crise russe D'autre part, la Russie est victime, enfin subit son statut énergétique, donc la baisse du cours du prix du pétrole. Mais oui, il y a un affaiblissement qui est contourné tout de même par des redéploiements avec d'autres partenaires que ceux qui sont les sanctionneurs, entre guillemets. Redéploiement en Sibérie avec la Chine, notamment. Et puis, il y a un jeu en cascade, c'est-à-dire que la Russie est sanctionnée, mais elle sanctionne. Elle sanctionne l'Ukraine sur le terrain alimentaire. Quand elle a envie, elle sanctionne la Moldavie. Ça va peut-être se produire prochainement, vu l'état des lieux en Moldavie. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il est très difficile de mesurer quelle est la part de l'effet économique sanction et de l'effet économique cours du pétrole. Mais je dirais aussi qu'il y a quelque chose que la Russie a prouvé grâce aux sanctions. C'est la solidité de son système autour de Poutine. C'est finalement la construction nationale, patriotique, qui est renforcée par l'agression, sanction, qui a été portée contre la Russie.
Difficile, Pierre Conessa, de mesurer la portée des sanctions en regardant l'état d'affaiblissement d'un pays qui les subit.
Je crois qu'on a trois cas différents, effectivement. Le cas de Cuba, qui est en fait l'objet de sanctions depuis une date immémoriale, c'est quelque chose de totalement surréaliste, l'idée que on puisse encore aujourd'hui parler des sanctions contre Cuba. On n'est plus à l'époque des missiles, etc. Donc il y avait une espèce d'aspect de vengeance, c'est-à-dire d'avoir provoqué le grand ennemi américain. Et donc les sanctions se sont pérennisées parce qu'il existe un lobby cubain très fort aux États-Unis, donc qui a prolongé les sanctions pour des raisons politiques. Donc,
et qui est encore très fort d'ailleurs aujourd'hui.
Qui est encore très fort, oui. Mais ça, on parlera, si vous voulez, du poids des lobbies dans les sanctions, parce que c'est une des manières de dire qui il faut sanctionner, comment. Pour le cas de l'Iran, certains de ces pays, comme par exemple l'Afrique du Sud, quand elle était mise sous embargo, sont des pays qui ont déjà un tissu industriel et qui se trouvent dans une situation très exceptionnelle. C'est que ce sont ses principaux concurrents qui vont le laisser développer les domaines stratégiques les plus importants. Donc c'est une rare occasion pour une industrie naissante de se fortifier. Rappelez-vous l'Afrique du Sud avec l'industrie de l'armement. Ils avaient misé tout à fait là-dessus. Ils avaient une industrie d'armement très très compétitive qui s'est écroulée quand Mandela est arrivé au pouvoir, puisque ça n'avait plus... On est arrivé dans un système de concurrence internationale, il n'y a plus cette priorité, etc. Pour l'Iran, on est effectivement à constater que c'est un pays qui a un tissu industriel, des ingénieurs, et donc il faut probablement faire cet audit pour savoir quel va être l'effet d'embellie provoqué par la levée des sanctions. Pour la Russie, moi je vous avoue que je suis plus intéressé par l'effet des contre-sanctions imposées par les Russes sur les Français que par les effets imposés par les Français sur les Russes. Donc on est dans une situation qui est un peu surréaliste, parce qu'encore une fois, on est dans la logique du rapport de puissance. On va dire qu'on va imposer des sanctions. Mais les Russes ont qu'à discuter avec les Chinois, avec les Coréens, etc. Moi, vous savez, en Iran, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que toutes les voitures allemandes sont neuves, toutes les voitures françaises sont vieilles. Réfléchissez là-dessus, vous allez comprendre pourquoi j'ai des doutes.
François Hesbourg, faire des sanctions contre un pays, ça dit quelque chose, en fait, des rapports de domination qui peuvent exister. Et est-ce que ça ne suppose pas qu'on soit forcément fort pour prendre des sanctions? Parce qu'il faut aussi être en mesure peut-être de se prémunir des réactions qu'il va y avoir en face. C'est plus compliqué de sanctionner la Russie peut-être que de sanctionner un petit pays.
Les réactions des sanctions du fort au faible, si je puis dire, ça existe, mais ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire, le propre des sanctions, vous trouverez autant de cas de réussite que d'échecs, quel que soit l'objectif des sanctions, que ce soit le changement de régime, que ce soit le rétablissement de rapports de domination, que ce soit des objectifs précis et spécifique, comme dans le cas de l'Iran, où l'objectif, c'était la négociation sur le nucléaire. Une fois que la négociation aboutit, il était possible de lever les sanctions.
De ce point de vue-là, c'était plutôt efficace.
Dans le cas de l'Iran, ça a marché. Mais dans les rapports de domination, je vais donner deux choses. La Russie versus l'Ukraine. Là, on est clairement dans un accord, dans un rapport de domination. On l'avait déjà vu, d'ailleurs, dès avant la chute de Yanukovych, quand la Russie avait commencé pour faciliter l'évolution de Yanukovych par rapport à la signature d'un traité avec la Russie plutôt qu'avec l'Union européenne, avait commencé à bloquer le vin ukrainien. C'était pas très très grand chose, mais c'était un début de sanction. Dans ces cas-là, ce qui arrive très souvent, c'est que le pays dominant cesse d'être le pays dominant parce que le pays dominé va trouver D'autres partenaires, dans le cas de l'Ukraine, dans l'industrie, étaient étroitement imbriqués à l'industrie russe. Je pense que c'est très exactement ce qui va se passer. Dans le cas de Cuba, à l'inverse, et la disproportion des forces était telle et que je pense que le dominateur d'antan, qu'étaient les États-Unis, ont toutes les chances de redevenir le dominateur du futur proche. La géographie est ce qu'elle est. Donc à la sortie, on n'aura pas le même résultat.
Donc on pourrait dire, Pierre Conessac, que certaines sanctions peuvent avoir pour effet de créer des solidarités régionales, peut-être d'ailleurs, qui n'auraient pas existé sans ces sanctions. C'est-à-dire que l'effet recherché, qui est a priori plutôt un effet d'isolement, ça ne fonctionne pas à chaque fois.
C'est-à-dire qu'on peut décider des sanctions si on est industrie dominante sur le niveau de la planète, mais si on n'est pas dans cette situation. Dans le cadre des sanctions contre l'Iran, les Chinois ne les appliquaient pas, ça fait 1,2 milliard d'habitants. Les Indiens ne les appliquaient pas, ça fait 1,3 milliard d'habitants. C'est-à-dire que la moitié de la planète ne les appliquait pas. Bon. Donc, on peut toujours dire que les sanctions sont imposées à l'Iran d'une manière qui va rendre dramatique la situation, mais il y a aussi une réorientation des circuits d'approvisionnement qui, évidemment, est très importante. Ça n'empêche qu'il y a un impact important sur la population quand même. C'est-à-dire que quand on ne fournit pas des pièces détachées d'avions, ben les avions tombent. Et ça, c'est la population qui les subit. C'est pas le programme nucléaire ni balistique qui s'arrête. Quand on fournit pas de médicaments et qu'il faut s'approvisionner sur le marché asiatique avec des produits génériques qui sont pas de bonne qualité, c'est la population qui souffre. Donc les sanctions ont une vocation diplomatique et politique démonstrative pour nos opinions publiques, sans aucune recherche d'efficacité pratique sur la cible visée.
Sauf qu'on pourrait considérer qu'en visant aussi la population des pays concernés, ces populations-là, au bout d'un moment, vont se révolter contre leur pouvoir en disant « voilà, c'est votre faute si on est dans cette situation-là ». Et donc, on se retourne contre le pouvoir. Manifestement, c'est pas ce qui se passe, vous le disiez, Catherine Durandin, en Russie.
Pas du tout. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé en 1999, au moment des frappes de l'OTAN, contre les Serbes à propos du Kosovo, des rapports avec les Albanais, victimes, considérés comme victimes à ce moment-là. Moi, j'étais en Roumanie au moment des frappes de l'OTAN, et ce qui m'a frappé, c'est que alors que les Roumains voulaient à tout prix rentrer dans l'OTAN, ils ne supportaient pas la politique du fort au faible. Et ils considéraient qu'utiliser un marteau pour tuer une fourmi, c'est-à-dire utiliser les frappes de l'OTAN pour taper sur des Serbes, c'était indécent. Et je crois que dans la problématique des sanctions, les dominés ou les moins forts, les Russes en l'occurrence, qui ne sont pas dominés, mais qui sont peut-être moins puissants que l'ensemble des puissances européennes, plus les États-Unis, se retournent vers leur pouvoir et soutiennent leur pouvoir. Alors, ils peuvent râler, ils ont râlé, il y a eu des râleries contre l'augmentation des prix, contre certains secteurs de pénurie, quoique il n'y a pas eu véritablement une pénurie en Russie. Mais je crois que la population, elle fait corps contre ce qui est considéré comme une injustice, comme aléatoire. Qui décide du bien et du mal? Qui décide du code de bonne conduite?
Pierre connaît ça?
Moi, je voudrais citer un autre exemple que je trouve plus extraordinaire, c'est celui de Cuba en 59. À l'époque, vous savez, Cuba, c'était en fait le bordel des États-Unis. C'était les casinos, la drogue, l'alcool, les prostituées. Il y avait plus de prostituées que d'ouvriers à Cuba en 59. C'est René Dumont qui dit ça. Quand les Américains imposent les sanctions, c'est parce qu'on a nationalisé les intérêts de la mafia américaine. C'est quand même surprenant quand même pour une démocratie d'aller défendre sa mafia. Vous me direz qu'elle est américaine, d'accord. Donc ça, c'est quand même pour vous dire combien le seul fait de défier une puissance peut amener à des réactions totalement disproportionnées. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Durandin, c'est-à-dire que effectivement, vous avez une réaction nationaliste. Pourquoi sommes-nous victimes d'une injustice? C'est comme quand on est sous les bombardements, on se solidarise avec la population, avec le pouvoir qui vous protège, pas avec celui qui vous bombarde. Et donc, on est en train de raisonner à l'envers, c'est-à-dire qu'on pense... Deuxième aspect qui est très important, c'est que ça conforte le régime. Parce que tous les trafics sont gérés par les services de sécurité, les services de police, les services de renseignement. Donc ça conforte tout ce parasitage qui tourne autour du pouvoir autoritaire.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, François Hesbourg? Et j'imagine que les diplomates et ceux qui prennent ces décisions de sanctionner, ils le savent.
Ça dépend.
Pas toujours.
Non, pas toujours. Parce que si la décision est politique, prise par des politiques sous l'influence de lobbies, et l'avis d'experts risque de compter pour peu. Et ça a été le cas pour Cuba. Mais juste un mot sur la pratique des sanctions dans le cas iranien. Et les sanctions qui ont fait mal à l'Iran, en dehors des sanctions qui étaient appliquées directement au programme nucléaire et balistique, il y en a eu un certain nombre, ça a été les sanctions financières. Et ça, c'est la grande nouveauté dans le monde des sanctions. Ça a été la capacité de développer un arsenal de sanctions bancaires et que tous les participants au système financier international étaient obligés d'appliquer, les Chinois comme les autres. Et le système financier international, il est sous la domination, dans le cas d'espèce, des États-Unis et de l'Union européenne, pas de la Chine ou de la Russie. Donc dans le cas de l'Iran, et la puissance sanctionnante avait les outils en main et ça marchait. Je vais juste vous rappeler trois choses. Les sanctions, ça sert à quoi? Ça peut soit servir à changer de régime, ça ne marche pas dans le cas de Cuba, ça marche dans le cas de l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Non pas les sanctions matérielles, parce que Pierre connaissait a tout à fait raison, les Africains du Sud, ils ont développé la bombe atomique pendant qu'ils étaient sous les sanctions. Ils ont fabriqué 6 bombes de type Hiroshima pendant qu'ils étaient sous sanctions. Par contre, la population, elle en avait. Elle n'en pouvait plus de l'isolement, du sentiment d'isolement, et elle ne s'est pas du tout, y compris la population blanche, elle ne s'est pas ralliée autour du pouvoir, elle s'est désolidarisée du pouvoir. Et c'est comme ça que Mandela a pu revenir. Donc, faire attention, entre les raisonnements et la réalité empirique, il y a parfois une certaine distance.
Donc ça sert parfois à changer de régime ou pas?
Ça peut aussi servir à affaiblir un pouvoir. C'est ce qu'on a fait avec les sanctions technologiques vis-à-vis de l'Union soviétique pendant les années 80. Et ça, je fais partie des artisans de cette politique-là à cette époque. J'aime autant vous dire que ça a marché. Elle a été tellement affaiblie qu'effectivement, ils ont perdu le moral. Et ça a beaucoup contribué à la fin pacifique de la guerre froide. Et enfin, les sanctions, ça peut servir pour faire aboutir une demande précise. Ça marche dans le cas de l'Iran, et c'est la catastrophe dans le cas des sanctions américaines et britanniques contre le Japon en 1941. On les prive de pétrole et de métaux spéciaux afin de les obliger à arrêter leur guerre en Chine. Le résultat, c'est Pearl Harbor et l'entrée du Japon dans la Deuxième Guerre mondiale. En plan empirique, vous trouverez des succès et des échecs dans les deux catégories, au-delà de ce que peut suggérer le raisonnement.
Peut-être que ça fonctionne, Catherine Durandin, quand les objectifs sont justement édictés de manière extrêmement précise. On a parfois l'impression que les sanctions internationales, c'est d'ailleurs ce que vous disiez un petit peu au début de la discussion, elles sont prises aussi parfois pour plaire à l'opinion publique du pays qui prend les sanctions pour dire, on n'est pas là sans rien faire, on ne va pas aller peut-être jusqu'à faire la guerre, mais on montre quand même qu'on a une activité diplomatique et qu'on ne laisse pas passer certains débordements.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision, parce que je pense qu'elle est trop massive et uniformisante. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y a une...
Juste sur la Russie, par exemple. J'imagine que si on avait laissé les Russes annexer la Crimée sans réagir, ça aurait sans doute été extrêmement mal perçu. Là, on peut dire, au moins, on a pris les sanctions économiques.
Par les Européens. Les Européens, ils s'en fichent de la Crimée. Hein. Je parle de l'opinion publique. L'opinion publique, elle s'en fiche de la Crimée. L'opinion publique, elle s'en fiche de la Moldavie et elle s'en fiche de l'Ukraine.
Elle ne veut pas mourir pour Danzig, c'est bien connu.
Voilà, il y a que 9000 morts en Ukraine depuis 2014. On a vu mieux quand même.
Et la Schluss, ils n'ont pas du tout apprécié non plus. Non, mais écoutez, il ne faut pas justifier des politiques au nom du fait que les Européens ne savent pas où est la Crimée. C'est l'argument qu'avait utilisé Chamberlain pour justifier les accords de Munich.
J'en prenais pas du tout.
Alors, il faut faire un peu attention quand même.
Je ne parlais pas d'un argument.
Alors, Catherine Durandin.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas une opinion publique unanime, il n'y a pas une décision politique absolument lisse. Prenez le rapport de la France avec la question de l'Ukraine et la question de la Russie. Il y a eu des intérêts divergents. Il y a eu des polémiques autour de la question de la vente du Mistral et ça a traîné. Donc il n'y avait pas une voix qui, au nom de l'éthique et de la morale occidentale, s'exprimait. Faux. Il y avait des intérêts divergents. Même chose sur le plan des intérêts économiques. Total et les éleveurs de porc n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Bon. Donc, je crois que c'est trop simple de dire qu'il y a une espèce d'indignation de l'opinion publique avec un grand O devant le phénomène crimé. Oui, non, enfin, il y a des secteurs différents, des appréciations différentes, des façons de peser les choses différemment.
Peut-être pas une indignation, mais en tout cas peut-être une volonté de la part des décideurs politiques de montrer qu'ils agissent sans aller jusqu'à une action qui serait considérée comme irréversible.
Bon. Alors, là où c'est intéressant la sanction, c'est que ça n'est pas un outil militaire. C'est une arme de guerre au nom d'une légitimité morale sur un code de bonne conduite édicté par celui qui sanctionne. Ok, on est d'accord là-dessus. C'est un outil diplomatique. Ça permet de la lever, la sanction. Ça permet de l'étendre. Ça permet de diminuer au contraire. Ça donne un calendrier, 6 mois, et puis on en repique pour 6 mois. On dit aux Russes en décembre, allez hop, l'UE recommence pour 6 mois, mais l'été prochain, on va voir. Hein, point d'interrogation. Donc ça donne une certaine souplesse. Là où c'est dangereux, pour celui qui sanctionne, c'est que, regardez au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas eu un accord commun, unanime, fraternel, occidental, éthique, pour punir les Russes. Hein. Les Hongrois ont re-signé, les Italiens aujourd'hui seraient prêts à faire lever les sanctions assez rapidement. Chacun y allait avec sa méthode et avec son agenda. Et donc, la Russie nous a fait la démonstration de nos divisions, c'est-à-dire de nos faiblesses. Et derrière nos faiblesses, il y a la question, si vous êtes divisé, mais excusez-moi, ça se divise l'éthique ? On divise l'éthique.
Oui, ça s'appelle le double standard. Hein, oui.
On n'a pas tous la même éthique.
Oui, ça s'appelle le double standard. Exactement. Ouais, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Catherine Durandin, parce que effectivement, si on essaye de faire une espèce de géopolitique des sanctions, on s'aperçoit bien qu'effectivement, les sanctions sont décidées pour l'essentiel par les Occidentaux pour réglementer une certaine conception du monde dans lequel le double standard est la règle. Aujourd'hui, vous avez un débat sur la pratique de sanctions à l'égard des produits fabriqués dans les territoires occupés, dans lequel vous voyez bien qu'il y a une distinction. Il y a des gens qui disent non, surtout pas, d'autres qui disent au contraire, il faut le faire, etc. Donc,
quand vous parlez des territoires occupés, j'imagine que c'est les territoires occupés palestiniens.
Oui, bien entendu, oui. Il y a d'autres territoires occupés sur la planète,
mais c'est pour ça.
Sur ce que disait François, c'est vrai que l'imposition de sanctions financières est effectivement une nouveauté importante. Bon. Elle est d'autant plus importante qu'en plus, on a ciblé sur des personnalités du pouvoir et autour du pouvoir des sanctions personnalisées. Donc ça, c'est effectivement l'idée de punir le pouvoir et non pas la population. Bon. Cela dit, pour les sanctions financières, c'est vrai que ça a eu un certain effet. Cela dit, ça va simplement pousser des pays comme la Chine et l'Inde de monter un système alternatif, parce qu'un jour ou l'autre, ils risquent d'être l'objet eux-mêmes de sanctions. Et donc,
Vous croyez vraiment qu'on oserait sanctionner la Chine aujourd'hui, étant donné le pouvoir de rétorsion qui pourrait être celui des Chinois?
C'est une possibilité qui n'est jamais exclue, parce que si vous voulez, vous pouvez avoir une crise demain sur Taïwan, qui va effectivement provoquer, ou pour le Tibet, j'en sais rien, qui va effectivement provoquer la nécessité de sanctions, justifiées par des raisons morales, évidemment, puisque rétablir une théocratie au Tibet, c'est quand même très important. Et donc, vous avez ce genre de choses. La pression de l'opinion publique, aujourd'hui, n'oubliez pas que si l'Afrique du Sud a changé, c'est aussi parce que l'URSS a disparu. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est devenu plat, c'est-à-dire qu'on est le centre du monde et on croit que, effectivement, nous sommes détenteurs de la moralité universelle. N'oubliez pas que nous avons imposé à l'Irak des sanctions qui ont été odieuses dans leur impact humanitaire. Vous vous rendez compte qu'il y a eu plus d'une centaine de milliers d'enfants qui sont morts de maladies bénignes parce qu'on avait mis des sanctions sur les produits pharmaceutiques, on avait mis des sanctions sur les mines de crayons, parce que c'était du graphite qui pouvait servir pour le programme nucléaire. Et on savait que ce programme avait abouti finalement au démantèlement complet des armes de destruction massive irakiennes, mais jamais personne n'a imaginé de mettre des sanctions sur les États-Unis quand ils ont envahi l'Irak.
François Hesbourg.
Oui, plusieurs choses. D'abord, toutes les sanctions ne sont pas imposées au nom d'une autorité morale. Quand je parlais, par exemple, des restrictions sur les technologies de l'Union soviétique, il n'y avait aucune question de moralité, croyez-moi. En étant le rapport de force à l'état chimiquement pur, c'était plus intéressant de le faire comme ça qu'avec un échange de bombes atomiques. Mais je ne pense pas que le mot de morale était prononcé à un moment donné quelconque du processus. Si on veut chercher des sanctions qui sont prises au nom d'une moralité supérieure, l'exemple le plus pur pour moi, ce sont les sanctions vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Puisque là, on avait la communauté internationale et avec le bloc soviétique, le bloc des non-alignés et un peu derrière les Occidentaux qui mettaient en place ces sanctions qui, au bout de 15 ans, ont fini effectivement par produire leurs effets. Les sanctions, c'est comme les autres moyens de guerre que vous avez évoqués, madame, ce sont des expressions d'intérêt. Alors bien entendu, sur les guerres, quelles qu'elles soient, on a tendance à plaquer aussi des considérations d'ordre moral. Il faut quand même motiver les combattants. Mais les sanctions ne sont pas d'une espèce qui serait différente de ce point de vue-là des autres instruments. En ce qui concerne les sanctions vis-à-vis de la Russie, il s'est passé quelque chose de très surprenant. Parce que je crois que le président Poutine, au moment de l'affaire criméenne, faisait exactement le calcul que vous évoquiez, à savoir que les Occidentaux, et spécialement les Européens, étaleraient leurs divergences. Mais le résultat, c'est que l'Allemagne n'a pas du tout réagi comme le pensaient les Russes. Les Russes pensaient que l'industrie lourde, que les lobbies industriels allemands feraient leur affaire de toute velléité de sanctions. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Madame Merkel a pris la tête du camp des sanctionneurs. Les Français ont suivi mollement derrière. Les Britanniques ont été obligés de suivre le train. Et même les Italiens n'ont pas pu y résister. Alors, peut-être que cet attelage, qui est effectivement fragile, et va voler en éclats l'été prochain. Mais l'été prochain, ça fera quand même un peu plus de 2 ans que l'affaire criméenne aura débuté. En l'occurrence, le camarade Poutine, si je puis dire, aura peut-être davantage noté l'unité des Occidentaux que vous. En tout cas, ils ont subi l'effet qui magnifie, notamment au niveau de la liquidité des réserves pétrolières dont ils disposent, et aura multiplié l'effet, les conséquences de la baisse des prix du pétrole.
Catherine Yorana, une courte réponse peut-être ?
Non, je pensais simplement revenir sur le terme moral. J'ai plutôt insisté sur le terme éthique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'autre part, par rapport à la Russie, les informations que vous donnez, évidemment, sont incontestables et incontournables. Mais je crois quand même que les divisions européennes apparaissent. On le sent, enfin, dans leur lecture des situations de l'Union européenne, et qu'ils vont aussi à la pêche, au dialogue, je dirais, avec certains secteurs privilégiés. Ce qu'ils ont fait avec les secteurs économiques français, enfin, c'est très très net, notamment avec des grandes entreprises comme Total ou autres. Et à travers les lobbies des groupes parlementaires, amitiés franco-russes, etc. Donc là, ça circule, je dirais, la pression de l'intérêt national russe, ce qui est normal.
Alors, à quoi servent les sanctions internationales ? C'est donc la question qu'on pose ce soir à Catherine Durandin, François Hesbourg et Pierre Conessa. On a beaucoup parlé pour l'instant, et c'est à juste titre, bien entendu, des sanctions d'État à État ou de groupes d'État à État. Il y a aussi des sanctions qui sont prises contre des acteurs non étatiques, même s'ils se revendiquent comme tels. J'imagine que vous voyez où je veux en venir, Pierre Conessa. Aujourd'hui, l'État islamique, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour sanctionner ceux qui soutiennent ou ceux qui profitent en tout cas des activités économiques de l'État islamique. On voit bien que là, les sanctions, elles sont pas uniquement envisagées comme des alternatives à la guerre, mais comme des compléments à la guerre. Est-ce que là, ce sont des sanctions qui vous paraissent justifiées, voire incontournables ?
Non, c'est une très bonne raison de trouver effectivement une légitimité aux sanctions, puisqu'on est effectivement dans une période de guerre avec un ennemi dont on a du mal à se définir s'il est un État, s'il n'est pas un État ou autre. Bon. Cela dit, deux ou trois remarques. Tout le monde se focalise aujourd'hui sur les sanctions financières à l'égard de l'État islamique. Bon, mais on sait bien que même si l'État islamique disparaît demain, ça ne fera pas disparaître le salafisme djihadiste. Bon. Donc la question, c'est comment fait-on les sanctions contre l'idéologie de Et là, on tombe à la question de l'Arabie Saoudite. Et là, il n'est pas question de mettre des sanctions sur l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, rappelez-vous quand même ce magnifique tour de passe-passe après le 11 septembre, où il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les avions. Et quand même, en mois de janvier, Bush désigne l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord comme l'axe du mal. Donc ce tour de passe-passe qui est important, c'est celui des lobbies que j'évoquais tout à l'heure. Simplement, le lobby saoudien est un lobby beaucoup plus discret, si vous voulez, qui passe au-dessous du radar, mais qui est beaucoup plus efficace que d'autres formes de lobbying pour éviter les sanctions.
En tout cas, la guerre telle qu'elle est présentée, c'est pas une guerre contre le salafisme, c'est une guerre contre l'État islamique.
Oui, mais
l'ennemi, il est quand même clairement identifié, même s'il est difficile sans doute à combattre, non ?
Ah ben attendez, l'État islamique, ce n'est pas un État, c'est une mouvance qui est capable de faire des attentats en Indonésie, en France, etc., etc. Donc encore une fois, le détruire sous l'angle financier, ne le détruira pas sous l'angle idéologique, parce que là, ça pose une question de sanctions beaucoup plus grave. Bon. Le deuxième aspect, c'est que effectivement, les sanctions financières sont absolument indispensables. Simplement, j'attire l'attention sur pourquoi il y a eu autant de trafic transfrontalier en dépit de l'embargo. L'Est de la Turquie, qui est la région la plus pauvre de la Turquie, est celle à laquelle on a imposé l'embargo sur l'Iran à l'époque de la guerre Iran-Irak, l'embargo sur l'Irak à l'époque de la guerre contre l'Irak, et l'embargo sur la Syrie aujourd'hui. Et donc ces pays, ces gens qui sont parmi les plus pauvres de la Turquie ne comprennent pas pourquoi on leur impose à eux, si vous voulez, l'effet économique de sanctions qui sont décidées à New York par des gens qui effectivement se fichent de la façon dont eux-mêmes auront à vivre. Puisque s'il y a compensation, en général, elles aboutissent rarement dans la région concernée. Donc, deuxième remarque, en l'occurrence, arrêter le financement de l'État islamique, encore une fois, ce n'est pas de l'argent sale dans l'État islamique, c'est de l'argent propre. C'est de l'argent qui est versé par des gens qui pensent contribuer à des ONG, qui vont aider etc., ou des fondations privées. Et ce n'est pas, encore une fois, le fait de c'est pas la convention de Mérida qu'il faudrait appliquer, c'est la sanction à la source. Et la sanction à la source, ça renvoie toujours au même ciblage qu'on ne veut pas traiter.
Juste un mot, la convention de Mérida, ça renvoie à une histoire ancienne.
La convention de Mérida, c'est une convention qu'on a signée pour lutter contre le crime organisé. Donc c'était sur le processus contraire, c'est-à-dire comment de l'argent sale devient propre. Mais là, en l'espèce, c'est de l'argent propre qui devient sale. Et donc c'est tout à fait autre chose.
François Hesbourg.
Oui, moi, je suis d'accord sur un point et pas d'accord sur un autre avec Pierre Conessa sur ce type de sanctions qui, soit dit en passant, ont d'abord été appliqués à Al-Qaïda après le 11 septembre 2001. Donc là aussi, on a une certaine expérience. Alors, on a déjà fait un tour de chauffe, hein, si je puis dire.
En évitant toujours l'Arabie Saoudite.
J'étais d'accord avec toi sur un volet du sujet. Et c'est celui où je dirais que je suis assez d'accord avec toi pour dire que finalement, ça ne sert probablement pas à grand-chose. C'est-à-dire l'État islamique, Al-Qaïda, ce sont des idéologies, dans le cas de Daesh, malheureusement, une idéologie très construite, très élaborée, probablement beaucoup plus difficile à combattre que celle d'Al-Qaïda. Et très honnêtement, it's not the economy stupid, comme pour paraphraser à Bill Clinton dans la campagne électorale contre Bush.
Là où Al-Qaïda en tant que groupe terroriste, groupe armé, on a quand même l'impression que sa nuisance a été considérablement réduite.
D'abord,
on peut y voir un effet aussi des sanctions.
D'abord, effectivement, c'était un groupe qui était moins construit, moins compétent, pour employer un terme simple, que Daesh. Et très honnêtement, c'est pas à travers les transactions financières que les Américains ont retrouvé Bin Laden. La guerre contre le terrorisme s'est jouée principalement sur d'autres terrains. Moi, ça ne me gêne pas qu'on attaque les réseaux financiers, je serais ravi. D'autant plus, et c'est là où j'ai un petit point de désaccord, et c'est en partie de l'argent sale. C'est-à-dire les antiquités qui sont vendues, exemple, par Daesh, c'est de l'argent hyper sale. La contrebande de pétrole vers les forces de Bachar et vers certaines familles turques, c'est quand même de l'argent assez sale. Juste un petit mot sur la Chine. Et au risque de vous surprendre, il y a toujours des sanctions vis-à-vis de la Chine. L'Union européenne avait décrété, pour des raisons morales, alors là on est dans le champ que vous évoquiez tout à l'heure, un embargo sur les armes vers la Chine après le massacre de la place Tiananmen en 1989. Et comme ça a été une décision de l'Union en tant que telle, de la communauté qui l'a précédée, on ne peut supprimer cet embargo que par une décision unanime. Donc l'embargo est toujours en place.
Il est toujours en place, mais il est appliqué ou alors
il est grosso modo appliqué. Ouais. Le président Chirac avait essayé de le faire sauter. Et puis alors là, les Américains qui sont arrivés en disant, un des types de notre ambassade à Washington, il dit, écoutez, vous, l'Union européenne, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez lever l'embargo vis-à-vis de la Chine, mais alors, ne soyez pas surpris il devait devenir plus difficile de vendre des Airbus aux États-Unis et d'acheter certains éléments de technologie sensible aux États-Unis. Le lobby militaro-industriel qui avait milité pour la levée de l'embargo vis-à-vis de la Chine a tout de suite recommandé au président Chirac de ne pas insister.
Alors, ça pose aussi la question d'ailleurs de la difficulté à sortir des sanctions quand on en a prises, d'autant qu'il y a peut-être aussi des fois un régime de sanctions qui appelle de nouvelles sanctions sanctions quand le pays qu'on sanctionne justement va un peu trop
c'est
loin.
Comme la guerre. Alors, je voudrais c'est comme vous... la guerre. C'est plus facile voilà, à commencer qu'à arrêter.
Je voudrais vous citer justement une courte phrase de Bastien Nivet, qui est chercheur associé à l'IRIS et qui a pas mal écrit là-dessus. Il dit « La sortie de sanctions est difficile parce que les sanctions finissent par être une partie du problème diplomatique alors qu'elles étaient censées apporter une partie de la solution. » Pierre connaît ça.
Oui, je crois qu'effectivement, encore une fois, la grand-messe qui se passe autour de décisions de sanctions, qui se passe par exemple à l'Assemblée générale de l'ONU, se traduisent par une déclaration qui, en général, nous avons élargi et approfondi les sanctions. Ça, c'est le communiqué, si vous voulez, que je peux vous écrire, si vous avez envie. Mais, encore une fois, des sanctions n'ont d'efficacité que si elles sont ciblées, si elles sont sélectives, parce que c'est le seul moyen de les contrôler. Si vous faites des sanctions générales, vous êtes obligé de contrôler aussi bien si l'Iran veut acheter du camembert que s'il veut acheter des pièces d'Airbus. Donc on est dans quelque chose qui est une espèce de logique diplomatique, une sociologie de la négociation internationale, si vous voulez, qui n'a pas toujours réfléchi par rapport à l'objet qu'on est en train de viser.
On pourrait même parler d'une forme d'engrenage.
Ah, il y a un côté comme celui-là, oui. Mais pour le cas de la Chine, par exemple, dont parlait François, c'est vrai que l'embargo s'applique toujours à l'égard de la Chine. Cela dit, les Chinois, à chaque fois qu'ils veulent nous acheter des armes, quand ils veulent nous acheter des ravals, ils en veulent un.
Bah oui.
Donc, ils ont aussi cette idée, rappelez-vous, c'est que si vous en vendez un exemplaire, on va vous le reproduire, en faire des petits. Bon, bah, si vous voulez, c'est une négociation qui tourne assez vite court, quoi. Donc, il y a effectivement cet effet des sanctions, puis il y a aussi le comportement de la puissance en face qui peut avoir. Et puis, j'en termine une chose. On a quand même réussi à sanctionner l'Iran à l'époque où on fermait Aulnay. C'est-à-dire que Peugeot, qui était le gros opérateur automobile iranien, est obligé de fermer Aulnay parce qu'il perd 150 000 véhicules produits en Iran. Et que je sache, les Peugeot, si on les voit d'ailleurs en Iran, participer peu au programme nucléaire.
Ouais, elles sont plus très neuves, en tout cas, les Peugeot qu'on peut voir en Iran. Catherine Durandin.
Oui, là, on parlait d'engrenage et de difficulté de sortie de la sanction, et de négociation, en quelque sorte, d'une diplomatie de sortie. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point la levée de la sanction entraîne une propagande ou une désinformation, c'est-à-dire un changement radical d'image. Autrement dit, le grand Satan iranien, demain, devient... le président merveilleux, tout juste si c'est pas le frère démocrate, béni par le pape et qui attend la bénédiction de Paris. Il y a quelque chose qui est effroyable.
D'autant que c'est très rapide quand même.
C'est la même personne, oui. Mais bon, on lève les sanctions, donc il faut qu'on nettoie la statue. Le problème, c'est que c'est pas une statue, c'est un pouvoir, c'est un pays, c'est une culture, c'est une politique, c'est une constitution. Rien n'a changé. Donc il y a un côté mystérieux, un peu jouissif comme ça, de la sanction qui punit. Et quand la punition est terminée, l'enfant sort du cachot et c'est mon bébé chéri.
Enfin, on sort du cachot, la levée des sanctions va quand même être échelonnée sur une dizaine d'années. Donc ça va être
Il est devenu encore plus difficile de lever les sanctions qu'à la guerre, parce qu'il ne faut pas seulement effectivement régler le sac de nœuds, parce que c'est un sac de nœuds à la fin diplomatique. Il ne faut pas simplement effectivement propreter la statue, et il faut aussi convaincre les banquiers de revenir. Maintenant que les sanctions sont en grande partie des sanctions financières, et comme les banquiers sont des hommes d'affaires qui craignent, qui sont comme les chats, chat ébouillanté craint l'eau froide, hein, et les banquiers ne vont pas revenir très vite en Iran. Et les investisseurs ne vont pas revenir très vite en Iran.
Il faut dire que certains ont été un peu échaudés, comme vous dites, notamment la BNP qui a été sanctionnée par la justice américaine pour avoir fait des transactions en dollars avec des pays qui étaient considérés comme des ennemis des États-Unis, par exemple l'Iran, justement.
Par exemple, et surtout le Sud-Soudan. Ce dont on se demande ce qu'il fout dans cette galère. C'est là où, en fait, la viscosité des sanctions risque d'être la plus forte. Je reprends l'image de la guerre que vous avez utilisée tout à l'heure. Avant d'appliquer des sanctions, il vaut mieux réfléchir. Il faut savoir que très souvent, ça ne marche pas. Et on ne sait pas toujours pourquoi ça ne marche pas. Et ce que moi, je vais donner toute une série de cas empiriques. Mmh. Et vous en trouvez, c'est à peu près 50-50. Hein. Dans des positionnements extrêmement différents les uns des autres. Donc, un outil à manier avec précaution.
Et bien voilà, qui me semble une excellente conclusion. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Pierre Conessa, le guide du petit djihadiste, s'est publié chez Fayard. La guerre froide de Catherine Durandin dans la collection Que sais-je des puffs d'ici quelques jours. Et Secrètes histoires, la naissance du monde moderne de François Heisbourg aux éditions Stock. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Théo Gomard. Demain, la question sera la suivante. Les démocraties sont-elles tentées par l'autoritarisme ? Il sera question de la Pologne, de la Hongrie, peut-être de la France, allez savoir.